Disons 3200 ou 3700.
Ouais.
Disons ça. Donc depuis plus longtemps que cela. Hein, la statue de sel attendait déjà la femme de l'homme depuis des millénaires. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham. Et c'est Abraham maintenant qui a déjà accédé à une certaine liberté, qui est déjà âgé, qui est déjà sage, prophète. Il lui dit, Abraham, Abraham, pourquoi deux fois? Pourquoi il ne serait pas Dieu? Les Juifs disent, ben, il appelle son bon côté et son mauvais côté, son bon penchant, son mauvais penchant. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est Abraham tout entier, la droite comme la gauche, le bon comme le mauvais. Donc c'est vraiment tout Abraham qui est convoqué, ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas. Il répondit, il dit, me voici. Dieu dit, et vous avez entendu hier l'interprétation juive, prends ton fils, mais j'en ai deux, ton unique, chacun est unique de sa mère. Que tu chéris, mais je les aime tous les deux. Isaac. L'enfant de la promesse. L'enfant par laquelle la vie doit passer. Qui est-ce qui parle? Dieu. La divinité. Dieu, selon son attribut de justice. Hein, quand on voit Dieu, c'est toujours l'attribut de justice, tandis que quand on voit Yahvé, c'est toujours l'attribut de l'amour. Donc j'ai l'attribut de justice. La divinité, Elohim. Prends ton fils, ton unique, celui que tu chéris, Isaac. Ici, dans la Bible de Jérusalem, et va-t'en. Et va pour toi. C'est le même Lech Lecha qu'au début, au chapitre 12. Va pour toi. Va vers toi. Va-t'en. C'est le même pas. Il y a de nouveau quelque chose à quitter. Et ça nous est annoncé par le récit lui-même. Au pays de Moria. Où est ce pays de Moria? Moria, ça peut vouloir dire deux choses. Mon enfant, mort, la mire, l'enfant, mon enfant, ya, c'est Dieu. Ou bien Mori, peut vouloir dire aussi, celui qui m'enseigne, c'est Dieu. Moria. On a identifié ce site, dans la tradition juive, avec la montagne du Temple. Celle où l'encens monte vers Dieu. La colline de l'encens, comme l'appelle également le Cantique des Cantiques. La montagne de Yah. C'est pour ça qu'on a montré dans le film le rocher du sacrifice, le rocher du sacrifice, comme étant le rocher sur lequel les sacrifices vont être faits lorsque le temple va être construit plus tard, à l'époque de Salomon. Ou bien celui qui m'enseigne, c'est Dieu. C'est pas moi-même, c'est pas les autres. Là, ici, je ne peux pas lire comme cela. Ici, j'ai « et tu l'offriras en holocauste ». Ça, c'est une interprétation. « Et tu le monteras en montée ». Il y a tout un jeu de mots dans le texte hébraïque sur le mot, sur la racine « montée ». Vous connaissez la compagnie d'aviation israélienne, « El Al », vers le haut, vers sur, « Al ».« Al », c'est « montée », c'est l'élévation. Tu dois élever ton fils. Et alors, Ola, la montée, c'est bien sûr, ça va devenir, dans la tradition du Lévitique, ça va devenir l'Holocauste. C'est la montée. Quand tu veux monter vers Dieu, tu vas te donner une image symbole de cette montée, qui est en même temps un engagement, puisque c'est une prise dans le monde, tu vas faire un sacrifice. Tu veux monter vers Dieu et tu te rends compte que ta voiture est un empêchement parce que tu travailles trop et tu circules beaucoup trop, et tu brûles ta voiture. Si ta main te scandalise, tu la coupes. Mais la main, c'est un avoir. Si au lieu de recevoir, tu mets la main dessus, donc ce que tu as qui t'empêche d'aller vers Dieu, de monter vers Dieu, tu la coupes. C'est-à-dire, tu enlèves cet avoir. Si ton œil te scandalise, l'œil c'est le désir où je convoite, je voudrais avoir. Ce bijou-là, je voudrais quand même l'avoir. C'est ça, tu convoites pour avoir. Eh bien, si cette convoitise, ou ce désir, peut-être le désir de quelqu'un, désir sexuel, si ça te scandalise, si ça t'empêche de voir en l'autre et en toi-même cette image de Dieu, tu coupes ton œil, tu enlèves ton œil, tu arraches ton œil. C'est-à-dire, tu enlèves l'objet de ton désir, tu prends distance, tu coupes. Et le couper est important ici. Tu coupes, tu enlèves. Jésus ne nous dit pas de nous enlever une partie du corps, non. Il nous dit simplement, attention à ce que t'empêche d'être libre. La foi étant la libération profonde. Si ton pied te scandalise, ça te tombe à pouvoir. Au lieu d'aller vers quelqu'un, tu veux le prendre, tu veux mettre le pied dessus, hein, l'empêcher de s'en aller. Eh bien, coupe ton pied. L'avoir, le désir, le pouvoir sont toujours nos tentations, comme étaient celles de Jésus et celles de tout un chacun. Alors coupe, dit Jésus. Il a lu Abraham. Hein? Là, tu le monteras en montée sur une montagne que je t'indiquerai. Le pays que je te montrerai, la montagne que je t'indiquerai. Il n'est pas précis, hein, Dieu. Nous aimerions savoir. Il faut prendre combien d'essence. Est-ce qu'on arrivera jusque-là? Dire le pays que je t'indiquerai. Voyez la vulnérabilité. Dieu me met que toujours comme cela, sans rien. Abraham se leva tôt. Il comprend, hein, il se lève tôt. Puisqu'il y a une action de salut qui va se réaliser. Il se lève tôt. C'est là son âme. Et ce qui est admirable dans ce texte, c'est que vous avez à la fois des détails tout à fait concrets, tout à fait simples, triviaux même, hein, avec une profondeur extraordinaire du récit. C'est là son âme, prit avec lui deux de ses serviteurs. En fait, le terme qu'il utilise, c'est enfant-serviteur, adolescent, jeune garçon, deux de ses serviteurs. Suivant la tradition juive, ces deux serviteurs sont Ismaël, bon, il est parti, hein, il est allé vers l'Égypte, mais enfin, hein, c'est Ismaël et c'est Eliezer. C'est pas faux, hein, de dire ça. C'est-à-dire qu'ils sont toujours présents dans la mémoire. Le fils est celui qui a été adopté, donc deux autres fils. Il prend avec lui, au fond, ses trois fils, c'est-à-dire ce à quoi il est attaché. Il est encore attaché. Et c'est normal, cet attachement n'est pas mauvais du tout, on ne dit jamais que c'est mauvais. On dit simplement qu'il faut le dépasser, qu'il faut le lâcher. Alors, il fendit le bois de la montée, c'est-à-dire de l'Holocauste, que vous avez probablement dans vos textes, et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Hein? Où est-ce? Ah, au pays de Moria. Je ne sais pas très bien où c'est, le pays de Moria, mais enfin voilà, c'est une direction assez vague, sur une montagne, dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'invite. Et donc, on a voulu mettre cette montagne au lieu du temple pour montrer la continuité entre ce qui va se passer avec Abraham et les sacrifices qui vont se passer, et puis alors finalement Jésus qui va être, qui qui va mourir, là, pas très loin de cet endroit. Il fendit le bois de l'Holocauste. Tiens, il y a du bois. Il y aura aussi du bois sur la croix. Vous voyez les comparaisons qu'ils vont faire, vous l'avez entendu hier, et qu'ils vont faire qu'on va transposer cette histoire à Jésus, en le prenant comme figure. Il fendit le bois de l'Holocauste, se mit en route pour l'endroit que Dieu, Elohim, lui avait dit. Que la divinité lui avait dit. Quelle divinité ? Dieu ou l'image que Abraham se fait de Dieu ? Le troisième jour, tout ce qui se passe un troisième jour ou un troisième mois ou une troisième année dans la Bible est toujours un signe de salut. Deux temps de souffrance pour un temps de gloire. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, encore une fois, il avait déjà levé les yeux quand les trois étaient arrivés chez lui, hein, lorsqu'il était en train de faire la sieste devant sa tente. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. De loin. Être loin signifie toujours être étrange ou étranger. Abraham dit à ses serviteurs, c'est-à-dire à ses adolescents, à ses jeunes, à ses garçons, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Normalement, il devrait dire, s'il ne veut pas tromper ses deux compagnons, là, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et je reviendrai vers vous. Pourquoi il dit nous ? Alors de nouveau, il y a tous les Midrashim, hein, qui s'en donnent à cœur joie. Il nous dit, mais comme il était prophète, il faisait confiance à Dieu et il savait bien que c'était une épreuve. Mais ce n'est pas dit dans le texte, c'est dit pour le lecteur. Nous, nous le savons. Et nous, nous pouvons le lire comme ça. Mais Abraham dit nous parce que c'est encore nous. Lui et son fils ne font vraiment, je dirais presque, qu'une seule unité. Ils sont encore très liés l'un à l'autre. Vous allez voir que c'est dit dans le texte. Ils sont encore nous. Et de toute façon, c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Abraham prit le bois de la montée, si vous voulez, le chargea sur son fils Isaac. C'est pour ça qu'on y a vu, le père de l'église le voit, où Jésus portant sa croix. Lui-même prit en main le feu et le couteau. Ah, ça, ça lui revient. Le feu pour brûler, nous avons déjà vu le feu de Sodome, et le couteau. Le couteau, en hébreu, se dit Maachelet, la mangeuse. C'est un féminin, d'ailleurs. Couteau, c'est ce qu'on utilise pour manger. Il faut un couteau pour couper la viande, pour faire éventuellement la razzia. C'est un mangeur, c'est un instrument pour manger. Et manger, c'est toujours posséder, tirer à soi. Manger, c'est assimiler quelque chose de l'extérieur et le faire devenir soi. On va voir ce qu'il faut faire, justement, dans ce fait. Ils s'en allaient tous les deux à. Ils sont deux, ils sont un. Et peut-être encore trop à. Ils s'en allèrent tous les deux. Donc, il y a que... Et on va répéter cela pour dire, attention, c'est intéressant ici, il y a un élément que vous devez un peu approfondir. Ils s'en allèrent tous les deux, hein. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, mon père. Il répondit, oui, mon fils. Vous pouvez mettre l'accent sur père, l'accent sur fils, ou l'accent sur mon. Hein? C'est dans le texte. L'un et l'autre. Il répondit, oui, mon fils. Donc il est ouverture à son fils. Eh bien, reprit-il, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Un agneau, c'est un petit. C'est un fils d'une brebis. Petit agneau. Où est l'agneau pour la montée? Abraham répondit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour la montée, mon fils. Ah, c'est vrai, c'est Dieu qui pourvoira. C'est pas nous qui devons désigner l'agneau, c'est Dieu. Dieu, toujours Dieu, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour la montée, mon fils. Et ils s'en allèrent tous les deux à, les deux ensemble. Ils sont en connivence, et ils sont en connivence vers cette ouverture, il y a une ouverture vers Dieu qui doit pourvoir. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, je ne sais pas comment, mais c'est, en tout cas c'est Dieu qui le fait. Abraham y éleva l'autel, il en a déjà élevé un certain nombre, on sait bien ce que ça veut dire. Ces autels sont des marques de rencontre avec Dieu. Ici encore, une rencontre avec Dieu qui se dessine. Abraham, il va à l'autel, disposa le bois, puis il lia, important, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel. C'est pourquoi ce texte est toujours appelé dans la tradition juive Akeda. Akeda signifie ligature. La racine akad qui veut dire lier. Il le lie sur l'autel. Dans un certain sens, c'est comme s'il n'était plus tellement lié à lui, mon père, mon fils. Mais il le lie sur l'autel. L'autel qui symbolise la présence de Dieu. Il a déjà compris quelque chose. Il le lie à la présence de Dieu. Et c'est pourquoi donc on ne parle jamais de sacrifice d'Abraham, d'Isaac, bien que ici, à la Bible de Jérusalem, le sous-titre est encore sacrifice d'Isaac. Parfois, les Juifs disent le non-sacrifice d'Isaac, vous l'avez entendu hier aussi, parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice, finalement. En tout cas, pas d'Isaac. Ça, c'est sûr. Abraham répondit, c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau. Et puis Abraham y leva l'autel, il disposa le bois, puis il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Mais tous les détails sont pris. Donc, vous faire attendre. Qu'est-ce qui va arriver? Et le fait que vous racontez cela pour la première fois des enfants, c'est extraordinaire. On va voir comment ils suivent. Abraham étendit la main, il saisit la mangeuse pour immoler son fils. Il voudrait manger son fils. Je te mangerai bien. C'est une première expression de la tendresse qui n'a pas encore sevré son enfant. Vouloir posséder. Il étendit la mangeuse, il saisit, et il étendit la main. Il étendit la main, il saisit la mangeuse pour lui donner son fils. Son fils. Mais l'ange du Seigneur, et ici nous avons Yahvé. Jusqu'ici c'était Dieu. Donc une certaine image de Dieu. Une certaine manière dont Abraham, l'auteur éventuellement, voyait cette présence de Dieu. Présence de Dieu qui demande tout puisqu'il a donné tout. Sorte d'attribut de rigueur, d'attribut de justice de Dieu. Et de fait, vous avez entendu hier, il y a de cela, dans les réactions de certains, Dieu est celui qui peut demander tout. Il est le seul qui peut tout demander. Il est le dernier qui peut demander cela, et il est le seul qui puisse le demander. Et on se trouve là devant ce dilemme. Le seul est celui qui ne peut pas le faire. Qui est Dieu? Voilà la question. Qui est Dieu? Quelle image t'en fais-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? monter ton fils, le faire monter. Ça veut dire l'immoler ? Toutes sortes de questions que le texte nous pose. L'ange du Seigneur l'appela du ciel. Abraham ! Abraham ! Suivant sa main droite, celle qui saisit le couteau et l'autre. Les deux mains. Il répondit, me voici. Pourquoi il répète ? Est-ce que c'est le même Abraham ? Est-ce que c'est celui, Abraham, Abraham, me voici, prends ton fils, ton unique ? Ah non, c'est pas le même. Parce que c'est l'ange du Seigneur. Donc il l'interpelle selon sa dimension d'amour, de véritable amour. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main contre l'enfant. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Non pas que tu crains Yahvé. Non pas que tu crains Dieu, mais que tu crains Dieu. Tu as une idée de crainte de Dieu. Tu te fais une idée d'un Dieu que l'on peut craindre. Et tu n'as pas encore découvert que Dieu était une puissance d'amour qui sépare. Pas qui prend à lui, mais qui sépare. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Donc Abraham a une très haute idée de Dieu, mais un petit peu de travers. Enfin. Et puis tout d'un coup, il lève les yeux, il lève toujours les yeux, et il voit non plus la montagne cette fois-ci, mais un bélier. Un bélier, c'est un mouton père. Un agneau, c'est un mouton fils. Mais un bélier, c'est un mouton père. Et le bélier est encore une image de la paternité. Abraham alla prendre le bélier. Il offrit en montée à la place de son fils. Sacrifice de substitution. Qui va devenir la tradition des sacrifices de substitution en Israël. Pour dire que l'on se donne à Dieu, on lui donne quelque chose. Une maman, pour dire qu'elle se donne à son enfant, elle lui donne son lait. Pour dire que vous vous donnez à quelqu'un, vous l'invitez à manger, vous lui donnez du repas que vous avez préparé. Vous donnez quelque chose de vous-même. Donc, le signe du repas, de l'invitation. Et on demande à l'autre qu'il mange quelque chose de moi. Donc il assimile quelque chose de moi, comme les trois hôtes d'Abraham, auxquels Abraham donne à manger quelque chose de lui. Prenez, mangez ceci, mon corps, hein, dira Jésus. On peut comprendre cela. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que... Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le couteau est passé entre le son et le fils. Et Abraham a sacrifié sa paternité dans l'image du bélier. Abraham s'est détaché de son fils. Après avoir commencé à le lier à Dieu. À ce lieu, Abraham donna le nom, le Seigneur pourvoit. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, le Seigneur.
Jean, il y a une question.
Oui.
Dans la TOB, on dit pas Dieu sur la couloir, mais Dieu sur la voie. Et alors ils disent qui font un lien précisément avec ce verset que vous venez de citer. C'est sur la montagne que le Seigneur est vu.
Pour voir est déjà une interprétation. Ici dans le texte là, c'est exactement le Seigneur voit, le Seigneur verra. Le Seigneur voit, le Seigneur verra. Où sera vu? On peut l'utiliser. Est-ce que tu verras vraiment le Seigneur? Oui, mais ici c'est pour ça, je l'ai d'abord lu comme ça, mais j'allais justement le dire. C'est une, ici c'est déjà une interprétation, bon, qui a pour elle la Vulgate, etc., toute une tradition. Mais le vrai sens c'est cela. À partir de quel moment vois-tu Dieu? Et il faut le mettre en rapport aussi avec la femme, Agar, là, la Chairoï, au vivant qui me voit. Être vu par Dieu, c'est finalement le voir. Je le vois dans son regard. Il faut dire, le Seigneur voit sur la montagne, le Seigneur voit ou est vu, ou se laisse voir. Vous voyez, l'hébreu, la langue hébraïque permet ces approximations. Et heureusement, nous voulons toujours une détermination précise. Mais l'hébreu n'aime pas la détermination précise. Il laisse un vide pour que l'homme puisse le découvrir. Un texte ne doit pas tout dire. Si c'était un texte informatif, d'accord. Il faut être très précis. Si vous voulez faire un contrat d'assurance, hein, vous écrivez votre contrat en toutes petites lettres pour qu'on ne puisse pas le lire facilement. Mais l'hébreu n'aime pas ça. L'hébreu laisse un frémissement au texte, comme la poésie. Sur la montagne, le Seigneur voit. Pas Dieu. L'ange du Seigneur appela une seconde fois, il va lui donner une explication, puisque c'est Morebia, hein? Mon enseignant, c'est Dieu. C'est Dieu qui va enseigner. Appela une seconde fois du ciel et dit, je jure par moi-même, parole du Seigneur, oracle du Seigneur, il s'engage vraiment, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas retenu, ici, que tu ne m'as pas refusé, ton fils, ton unique. Le terme est, hébreu est plus précis, parce que tu n'as pas retenu. Ici, c'est de nouveau une interprétation. Tu n'as pas retenu ton fils pour toi. Comment ? Épargné. Oui. C'est encore pas tout à fait ça. Tu ne l'as pas retenu pour toi. C'est vraiment ça que le terme hébreu veut dire. Tu l'as pas retenu, ton fils, ton unique. Tu l'as laissé aller, tu l'as laissé monter. L'importance de laisser monter les gens. Parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas retenu ton fils, ton unique, tu n'as pas fait que ton fils ou ton unique soit simplement tien, je te comblerai de bénédiction. Voilà la bénédiction qui arrive. Ce n'est pas un donnant-donnant, hein, attention. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est la vie. Tu as laissé la vie passer, pas la mort. Tu as laissé passer la vie pour ton fils, mais tu as laissé monter la vie en toi aussi. Tu as découvert ce que c'était la véritable paternité, qui est détachement. Hier aussi dans le film, vous aviez toute une réflexion sur la paternité. Qu'est-ce que c'est que la paternité? Qui est père? Père, c'est pas facile d'être père. Père, c'est une terrible responsabilité. C'est une terrible vulnérabilité. Je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, excusez-moi, mais j'ai déjà dépassé l'heure, les étoiles du ciel, et que le sable qui est sur le bord de la mer, il répète simplement ce qu'il a dit, et ta postérité conquérera la porte de tes ennemis, la porte, c'est-à-dire ce qui donne la clé, hein, l'entrée à la ville de tes ennemis, c'est-à-dire que ta postérité, nous allons voir tout le sens que pourrait avoir Isaac, va être un chemin de paix, de bénédiction pour les hommes, par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, nous revenons au chapitre 12, verset 3, en retour de ton obéissance.
En retour est mal traduit. On pourrait traduire, tu peux voir tout cela dans ton obéissance. Ta soumission à tout ce qui s'est passé, donc ta soumission à la vie, est le chemin que la bénédiction va prendre pour conquérir la porte de tes ennemis, c'est-à-dire pour envahir le monde. Il peut y avoir, à partir de cette vie préservée, il peut y avoir un déferlement de miséricorde, de paix, de vie sur le monde. Exactement comme dans l'évangile de Luc, vous voyez qu'au moment où Jésus meurt, le pardon est donné à tous, à commencer par celui qui l'a demandé. Jésus l'a d'abord donné, enfin a demandé au Père de le donner, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a un qui demande le pardon, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et le pardon déferle sur la terre. Abraham revint vers ses serviteurs, vers ses garçons, ils se mirent en route ensemble pour Beersheba. Abraham résida à Beersheba. Il réside dans le serment, dans la promesse de Dieu. Beersheba. Et le premier verset, après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, là il n'y a qu'une seule fois Abraham. Ce n'est qu'après, c'est quand l'ange du Seigneur apparaît qu'il y a les deux fois. Mais la Bible de Jérusalem a mis les deux fois, je ne sais pas comment elle l'a fait, probablement qu'elle a fait un petit peu comme moi, sans assez faire attention. Tout à l'heure, l'Abraham Abraham ne vient qu'après montrant déjà une certaine liberté, une accession à une liberté. Quand il y a toujours, quand il y a le nom Moïse, Moïse, ou le nom est répété, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a une interpellation selon la droite et la gauche, et quand il y a droite et gauche, c'est comme dans les deux voies, dans la Bible, dans le psaume 1, etc., c'est toujours une manifestation de liberté. Donc nous avons essayé de lire le texte en essayant de laisser s'ouvrir quelques harmoniques du texte. Alors, de quoi ça parle ce texte?
Mais tu as fait une lecture très psychanalytique du texte.
Mais oui, mais c'est vrai que à la fois c'est psychanalytique et en même temps elle suit de très près ce que vous avez chez les pères de l'Église, qui prenait le texte dans sa littéralité d'abord. Et au fond, c'est laisser parler cette littéralité. Je le fais au XXe siècle, donc on ne peut pas négliger cette dimension psychanalytique. Vous voyez, ce qui, dans le document dont je vous ai parlé hier, le document de la commission biblique, ce qui est intéressant, c'est qu'on intègre de plus en plus toutes les médiations anthropologique, psychologique, sociologique, et c'est une dimension qui était souvent négligée et qui est très présente dans les livres de sagesse, qui reprend souvent en gommant presque, en effaçant à certains moments le nom de Dieu pour laisser parler la présence de Dieu dans la réalité humaine. Il ne faut pas la négliger non plus. Oui. C'est immédiatement scandaleux. Lu dans le texte, c'est scandaleux. Et c'est fait pour ça.
Je crois qu'elle a rêvé pour les filles de Noé, non?
Mais l'un et l'autre, c'est vrai,
avec une petite et même une grande différence, c'est scandaleux, mais maintenant, dans le plan, sur le plan de scandaleux, il y a une différence très grande, c'est que les filles de Lot, c'est un stratagème qui vient d'elle. Il n'est pas du tout inspiré par Dieu. Ici, dans la première partie, il est inspiré par une idée de Dieu, qui est Elohim. C'est la manière dont un certain Abraham peut se représenter les choses. Et dans la deuxième partie, c'est Dieu Yahvé qui intervient. Si je vous ai signalé ça, je ne suis pas le seul, le Père de l'Église le faisait déjà. C'est pour vous montrer qu'il y a un passage d'une idée de Dieu à une, ne disons pas seulement une autre idée de Dieu, mais à la réalité de Dieu. C'est comme ça que c'est vu. Il y a un Dieu qui semble demander la mort, un Dieu qui semble, et il y a Dieu qui demande la vie. Comment mettre les deux choses ensemble? Car ils sont dans notre cœur. Maintenant, donné à la décharge d'Abraham et au fait du scandale que cela provoque en nous, il ne faut pas oublier que nous sommes là dans un contexte où les sacrifices humains avaient un sens. Nous n'y voyons, nous, plus de sens, mais les sacrifices humains, chez les Cananéens, on a retrouvé pas mal de squelettes d'enfants en dessous de la première pierre d'un temple cananéen, par exemple. Et pas seulement en Canaan, mais également en Mésopotamie.
Et Akkas, le roi Akkas.
Oui. Le roi Akkas a sacrifié son fils au dieu Moloch. Et donc c'est une image de Dieu. Mais quelle est d'abord cette image de Dieu qui prend tout? Nous regardons ça du haut de notre grandeur. C'est scandaleux. Et comme je disais tout à l'heure, un petit garçon qui est venu me trouver tout effrayé un jour en me disant « Maman a dit qu'elle allait manger mon petit frère. » Scandalisé, la maman a dit « Je te mangerai. Bon. » Eh bien, il a pris ça à la lettre. « Maman a dit qu'elle allait manger mon petit frère. » Donc il allait le faire disparaître. À une époque où nous faisons disparaître pas mal d'enfants, par centaines de milliers, ça peut quand même nous faire réfléchir que nous sacrifions des enfants. Nous nous protégeons derrière le fait, mais ils ne sont pas encore nés. On va quand même aller voir. Et là-dessus aussi, vous avez chez Marie Malmarie, il y a quand même des réflexions assez intéressantes sur la psychanalyse, précisément, de personnes qui se sont fait avorter. Intéressant quand même à voir cet écho également. Mais donc, on se trouve devant des sacrifices d'enfants qui sont des actes religieux, pas seulement autrefois, vers les 2000 ans certainement, 2000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie ou en Canaan, il y avait des sacrifices d'enfants, mais ils étaient considérés, ces sacrifices, comme un acte religieux. Un acte religieux qui avait, au fond, deux sens. Un sens qui effraie. L'enfant, c'est vraiment la vie, et la vie ne m'appartient pas, ce n'est pas mon bien, ce n'est pas ma possession. Et donc, ce que j'ai de meilleur, et généralement c'était l'aîné, je l'offre à Dieu. À la divinité, quelle que soit maintenant l'image que l'on avait de Dieu. Et on a découvert cela également, par exemple, en Amérique du Sud. Que ce soit les sacrifices au Dieu Soleil, les sacrifices humains. Et donc, c'est une manière d'exprimer que ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie, et ça traîne encore dans un certain nombre de mythes grecs aussi, et donc elle ne m'appartient pas. C'est une manière de se déprendre. C'est un acte religieux. Vous direz, c'est primitif, c'est barbare. Oui, nous, gens du XXe siècle, qui connaissons l'avortement en Syrie, nous parlons comme ça.
C'est aussi un geste intéressé dans ces religions où l'on fait ça. Si on offre le premier-né, celui qui ouvre le sein maternel, c'est il a le meilleur, le premier étant considéré comme le meilleur, les prémices de la semence du Père, comme on disait. C'est pour que Dieu nous concède les autres. À une époque où la mortalité infantile était énorme, un enfant sur quatre, à peu près, hein, semble-t-il, à cette époque, arrivait à l'âge adulte, un sur quatre. Donc pour avoir quatre enfants, il fallait en faire une vingtaine. Il faut un petit peu, c'est-à-dire qu'une maman ne pouvait passer toute sa vie à porter, allaiter, à torchonner, les enfants. Il faut se rendre compte aussi de la mentalité de l'époque. Et donc, offrir un enfant, l'enfant étant ce que nous avons de plus précieux, était d'abord un don, et en même temps, on espère que le Dieu me rendra les autres, me permettra, fera vivre les autres. Et donc, il y a aussi dans ce texte cette dimension-là. Eh bien, que dans le texte, il y a aussi cette prise de distance vis-à-vis des sacrifices d'enfants. En Israël, on ne le fait pas. Et il y a quelques aberrations, précisément comme le roi Akaz, qui sacrifie son aîné, au dieu Moloch, pensant qu'il va écarter la guerre. Et puis, le prophète vient le trouver et dit « Oui, mais il y en a un petit qui s'annonce. » Il y a un nouveau qui s'annonce. Et on va l'appeler Dieu avec nous, ce petit qui s'annonce. Vous voyez, c'est Dieu avec nous. Emmanuel. Donc il y a une prise de distance par rapport au sacrifice humain et une instauration, une institution, vous voyez bien dans la fin, du sacrifice de substitution. Donc ça, c'est une première prise de distance. Deuxième prise de distance. Sacrifier son fils. C'est une chose, mais est-ce que c'est bien ça que le Seigneur me demande? À première vue, étant dans un milieu où l'on fait cela comme acte religieux, je peux comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Mais, si je comprends bien, est-ce que je dois sacrifier mon fils de cette manière-là, en l'immolant, c'est-à-dire en le donnant vraiment à Dieu et en me séparant physiquement de lui? Ou bien est-ce que je dois me séparer de lui en l'offrant à Dieu, c'est-à-dire en lui faisant découvrir la présence de Dieu? Et cette dimension-là existe aussi. C'est le passage de l'éducation dans le cocon familial à l'éducation, à la catéchèse. C'est un autre qui va faire la catéchèse de mon enfant. C'est un autre qui va apprendre à mon enfant ce que je ne peux pas lui apprendre. Et donc sur ce plan-là aussi, il y a une prise de distance que vous trouvez partout, présente aussi dans le texte. Mais je l'ai lu davantage en profondeur, à la lumière bien sûr de l'approfondissement que donne Marie Balmary, en le lisant aussi de manière psychanalytique, en montrant qu'il y a vraiment un instinct de possession paternelle ou maternelle, bien sûr, qui doit être dépassé. L'enfant ne grandira jamais, ne deviendra jamais libre s'il reste enchaîné. Ça ne veut pas dire la permissivité des parents. Il y a la possessivité et il y a la permissivité. Et entre les deux, la permissivité, c'est ne donner aucun repère à l'enfant. C'est penser qu'il va tout découvrir par lui-même. Dans un certain sens, c'est vrai, mais il risque aussi de se tuer, ce petit jeu-là. Et donc, il faut quand même que ça soit proportionné. La possessivité, c'est pratiquement de lui permettre de rien faire, ne pas lui permettre d'être lui-même, c'est toujours mettre la main dessus. De l'autre côté, c'est se désintéresser de lui. Or, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et le chemin est indiqué ici, c'est Dieu qui voit. Le chemin est indiqué d'Abraham à Isaac. Où est l'agneau du sacrifice? au fond, qu'est-ce qu'il faut sacrifier? C'est ça l'agneau du sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut finalement sacrifier? Ah, ça, il faut demander à Dieu. Donc, il y a un repère fondamental. Le repère, c'est précisément Dieu. Mais Dieu, c'est Dieu qui voira, qui verra l'agneau pour l'Holocauste. Et puis après, on est passé de Dieu qui verra à Yahvé qui verra. On est passé d'une divinité, c'est-à-dire d'une image que l'on a encore de Dieu, à un Dieu qui est davantage qu'une image, qui est une réalité qui résiste à la prise. Alors, il y a ces différentes dimensions qui sont présentes dans le texte. Le texte de Sodome, nous voyons bien qu'il y a plusieurs dimensions.
Mais alors, il est préférable de croire que la théorie des documents ne vaut pas, sinon on dit que ces deux récits conduisent en un. S'il n'y a qu'un récit où volontairement on change le nom d'Elohim en Yahvé, c'est plus parlant.
C'est plus parlant.
Mais
c'est
un travail de couture.
Peu importe. Peu importe. Parce que s'il y a même un travail de couture, et c'est possible, c'est même probable jusqu'à un certain point, s'il y a un travail de couture.
Le rédacteur.
Pourquoi le rédacteur définitif l'a-t-il laissé comme cela? Pourquoi n'a-t-il pas aligné tout? Il aurait pu mettre Elohim d'un bout à l'autre. Où il y avait d'un bout à l'autre. Pourquoi l'a-t-il pas fait? Et cela, dès l'interprétation juive, on le note. Car le juif partant de l'hébreu part toujours de la lettre. Les pères de l'Église partaient de la lettre. La lettre lue scrupuleusement avec une grande rigueur. Et quand ils ne comprenaient pas, ils se demandaient pourquoi. Alors, les différents rabbins ou savants juifs, donnaient chacun leur petite explication. Celui qui donne souvent la meilleure explication, c'est Rachid. Rachid de Troyes, le grand commandant.